Barakuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un calendrier de l'espoir à 3 mois de la présidentielle. Relâchement officiel annoncé hier soir. Dans 15 jours, la fin des jauges et des masques. Dans 1 mois, la réouverture des discothèques. Le secteur est ravi. Dès lundi, le pass vaccinal. Et l'horizon se dégage pour annoncer sa candidature. Emmanuel Macron n'a plus qu'à le dire. En coulisses, tout est prêt. La campagne et les propositions de Christiane Taubira pour les jeunes. Un revenu minimum de 800 euros. Ils aimeraient y croire. On va les entendre. Des chiffres au-delà de l'imaginable dans la tête de l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. On y plongera, Nicolas, dans le grand entretien.
Et ce mathématicien s'appelle Alexandre Grothendieck, les éditions Gallimard publient Récoltes et Semailles. Et on va évoquer cette figure absolument extraordinaire du XXe siècle avec Cédric Villani et Jean-Pierre Bourguignon, eux-mêmes mathématiciens, participer au débat. Hein. Moi, je suis pas matheux et je vais poser des questions, donc allez-y vous aussi au 01 45 24 7000.
Se parler, mais pourquoi faire ? Rencontre au sommet Blinken-Lavrov, les chefs de la diplomatie américaine et russe aujourd'hui, mais peu de chance qu'ils s'entendent dans cette atmosphère de guerre froide. La mort ne leur va pas bien, des médecins brisent le tabou et disent leur traumatisme de voir mourir leurs patients en cardiologie. Dans ce journal aussi, le nouveau business des sports d'hiver en Chine à 15 jours des Jeux de Pékin et la Mecque des skieurs, la vraie en Europe, dans les Alpes, la mythique descente de Kitzbühel en Autriche. C'est aujourd'hui épreuve de la Coupe du Monde de ski.
France Inter.
Première fermée, dernière ouverte. Les discothèques ont l'habitude depuis le début de la pandémie. 16 mois de fermeture d'un seul tenant. On y a refait la fête à partir de juillet dernier seulement, avant un nouveau blackout le 10 décembre. Cette fois, ça ne va pas s'éterniser. Dans le calendrier donné hier soir par Jean Castex, les patrons de boîtes ont noté la date réouverture. Le 16 février, Thierry Fontaine, président de Lumi Nuit, interrogé par Philippe Lefebvre, en danserait presque sur la table.
C'est une bonne nouvelle parce que ça nous donne enfin une perspective. On va pouvoir remettre nos équipes au travail, préparer nos ouvertures sereinement, caler les artistes, toutes ces choses-là. L'exécutif nous avait pas habitués à ça. On était à chaque fois systématiquement repoussés de 3 semaines en 3 semaines, de mois en mois. C'était jamais notre tour. Là, on voit qu'on est enfin dans un plan global. On est aligné à la fin de la consommation assise dans les bars. On est aligné à l'autorisation de danse dans les bars qui revient. Donc tout ça nous permet de voir l'avenir sereinement et surtout, on est une cohérence, on est considéré, on est écouté et ça, ça fait plaisir.
On a une perspective pour les patrons de boîtes de nuit le 16 février. Avant ça, dans 15 jours, ce sera la fin des jauges, la fin du masque à l'air libre et du télétravail imposé. Omicron, plus contagieux mais moins dangereux, permet de desserrer l'étau en s'appuyant sur le pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi. Argumentaire et calendrier donné hier par Jean Castex qui n'a pas convaincu l'opposition. C'est l'absurdistan, dénonce Marine Le Pen, quand le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, y voit un double calendrier à 3 mois de la présidentielle.
Le calendrier politique d'Emmanuel Macron semble s'imposer sur le calendrier sanitaire. L'incohérence de mettre en place le pass vaccinal lundi tout en assouplissant les mesures montre bien que le premier intérêt en la matière, c'est celui du président de la République. Alors les Français seront très contents d'avoir des assouplissements et on peut se mettre à leur place, je me mets à leur place naturellement, mais le pass vaccinal va venir très très vite les désenchanter.
Patrick Kanner avec Simon Le Baron, calendrier politique. Emmanuel Macron avait annoncé mi-décembre qu'il prendrait sa décision après le cap de la 5e vague. Autrement dit, qu'il attendait que ça aille mieux avant d'annoncer sa candidature. Ce pourrait être désormais une question de jours ou de courtes semaines. Le président Maxence Lambrecht n'a plus qu'à appuyer sur le bouton.
Son bureau de candidat est presque prêt au 6e étage du 68 rue du Rocher, à 1 km du palais. Ça le changera des dorures de l'Élysée, plaisante un marcheur. C'est beaucoup plus petit et pour l'instant, ça manque de déco. Mais déjà, le secrétaire général de l'Élysée repère les lieux. Au moins une fois par semaine, Alexis Kohler vient piloter au siège d'En Marche une réunion en dehors de ses heures de travail, précise une petite main. Une 40aine de personnes sont déjà salariées de la campagne. Ils viennent de l'Élysée, des ministères, les cabinets de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti, de Sébastien Lecornu fournissent des troupes. Jamais il n'y aura d'organigramme précis. Chacun se fait, se garde, son couloir, son groupe de travail. Dans chaque département, 6 militants viennent d'être nommés pour structurer localement la campagne, à distinguer des 400 comités d'élus locaux annoncés. La collecte des 500 parrainages, une formalité. Celle des dons, un peu moins. Il y a 5 millions à trouver. Côté agenda, les dates des débats télé commencent à être négociées, avec en tête les impératifs du président. Au moins 7 jours de sommet diplomatique d'ici au premier tour et une promesse à tenir, présidée jusqu'au dernier quart d'heure.
Maxence Lambrec, en avril, il sera trop tard quand Juliette Binoche, Charles Berling ou Jean-Pierre Darroussin appellent les partis de gauche à se soumettre à la primaire populaire. Une centaine de personnalités du monde de la culture signent une tribune cette semaine dans le magazine Les Inrocks. Elle y participera bien à cette primaire. Christiane Taubira, dernière candidate de gauche en date, et ses propositions pour la jeunesse, elle les a déclinées hier soir devant des étudiants de Sciences Po à Lille, Antoine Gignot.
Pour le constat, Christiane Taubira s'appuie sur les associations et les bénévoles, des ch'tis paniers qui distribuent de la nourriture aux étudiants.
On est à peu près 400 paniers par semaine.
Soit 4 fois plus que l'an dernier, observe la candidate.
En laissant s'étendre la précarité sur la jeune génération, on prend des risques sur des dizaines d'années.
C'est face à un amphi bondé que l'ancienne ministre présente ensuite ses propositions.
D'expérimenter.
Des mesures pour les jeunes sortis du système scolaire, des tutorats, du financement pour ceux qui ont des projets d'entreprise ou associatifs. Mais c'est surtout le revenu minimum de 800 euros par mois qui trouve un écho dans la salle.
C'est quelque chose qui, oui, nous a convaincus.
On n'est pas très loin de la fin du mois et j'ai quand même pas beaucoup d'argent sur mon compte. Et ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé de viande. Si je peux avoir un peu plus, c'est quand même sympa.
Taubira avait vraiment nous donné en fait les moyens de réussir.
Un enthousiasme commun. Mais qui laisse tout de même beaucoup de questions à la sortie.
Bon, ça me paraît pas très crédible, 800 euros, on va pas se mentir, mais bon. J'ai pris en note pour demander à mon prof d'économie si c'est faisable. Par rapport au chiffrage, ses positions sont très floues.
Flou, c'est aussi le mot qu'utilise Sophia pour parler de ses intentions de vote.
La gauche est en fait tellement partagée qu'en fait on sait plus où aller.
Face à des étudiants perdus, c'est donc d'abord un problème de mathématiques que Christiane Taubira va devoir résoudre, celui de la multiplication des candidats.
Favoritisme et détournement de fonds publics, Claude Guéant et 4 anciens conseillers de Nicolas Sarkozy attendent leur jugement aujourd'hui dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Claude Guéant incarcéré à la prison de la Santé depuis un mois après une autre condamnation.
Il est 8h07, 100 000 soldats, Florence, à la frontière ukrainienne.
Et des manœuvres sur terre en Biélorussie et en mer dans le Pacifique, l'Atlantique et la Méditerranée. La Russie joue la menace de plus en plus pour obtenir des garanties que les États-Unis ne sont pas prêts à donner sur l'OTAN et leur présence dans les pays de l'Est. La tension ne cesse donc de monter entre Moscou et Washington. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a rendez-vous aujourd'hui avec Sergueï Lavrov, son homologue russe à Genève. Avec nous Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. Bonjour.
Bonjour.
Sylvain, on voit mal comment la réunion d'aujourd'hui pourrait faire bouger les lignes.
Oui, parce qu'on voit difficilement comment on pourrait sortir du dialogue de sourds qui s'est installé. D'un côté, les Russes disent que leurs exigences sont non négociables. De l'autre, les Américains jugent la plupart d'entre elles inacceptables. Depuis le début des pourparlers, il y a une dizaine de jours, les positions sont figées. Les Américains disent qu'ils veulent bien discuter éventuellement des armements stratégiques, mais les Russes disent que ce n'est pas la priorité. Ils veulent, eux, des réponses écrites à leurs demandes, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN. Or, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a dit qu'il n'y aurait pas de documents à présenter aujourd'hui. Il ne faut donc pas attendre grand-chose de cette entrevue.
Alors Sylvain, la Russie fait tout pour laisser penser qu'elle va attaquer l'Ukraine, mais qu'en pensent les Russes ?
Alors, les études d'opinion sont assez claires. La majorité des Russes ne croient pas à une guerre avec l'Ukraine, mais surtout n'en veut pas. Beaucoup de Russes disent qu'ils sont fatigués de la politique étrangère. Leur priorité, c'est la situation économique du pays, leur pouvoir d'achat en baisse. Le sociologue Liev Gutkov, directeur de recherche au Centre Livada de Moscou, estime que le pouvoir ne pourra pas compter sur un soutien populaire en cas de conflit.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir encore une mobilisation guerrière et militariste. Ces sentiments sont épuisés. Ce qui s'est passé en 2014 après l'annexion de la Crimée ne peut pas se reproduire aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que la réaction de la population vis-à-vis de cette guerre sera fortement négative.
Ceci dit, le pouvoir n'est pas totalement déconnecté de l'opinion publique. Quand on demande aux Russes qui est responsable de cette crise, très majoritairement, ils désignent les États-Unis.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Inter. On en reparle avec Pierre Aski juste après ce journal. Et puis hier, la justice américaine a inculpé plusieurs responsables du gouvernement biélorusse dans la sphère d'influence de Vladimir Poutine, accusés d'avoir fait dérouter, souvenez-vous, un avion de Ryanair l'an dernier pour arrêter un journaliste d'opposition.
Il est 8h10, Florence, on n'en parle pas quand on est médecin.
Côtoyer la mort et y survivre, voilà le mantra des blouses blanches. Pourtant, c'est un stress immense qui n'est peut-être pas étranger aux démissions dans le métier. Aujourd'hui, un collectif de cardiologues brise le tabou. Assister à la mort de 400 000 personnes chaque année dans leur spécialité, ça n'est pas anodin. C'est une violence qui les bouleverse et que le parcours de formation des médecins ferait bien de prendre en compte, Véronique Julia.
C'est un professeur de médecine d'une cinquantaine d'années. Il est cardiologue dans un grand hôpital proche de Paris. Il s'occupe de maladies rares et il n'hésite pas à le dire. Confronté souvent à la mort de ses patients, Thibaut Damy a craqué lui aussi.
Est-ce que j'ai fait le maximum? Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Tous les soignants vont vivre une scène avec un patient décédé, chacun avec leur projection personnelle. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une femme psychiatre qui a pu dépister chez moi la survenue d'un burn-out. C'est de l'ordre du stress post-traumatique.
On voit parfois les soignants comme des qui banalise ces morts quotidiennes. Pourtant, explique Thibaut Damy, rien ne nous y prépare et ça reste ultra-violent.
Le Covid-19 a souligné exactement ça. Comment voulez-vous que les soignants surmontent dans leur humanité de laisser mourir un patient seul dans une chambre et loin de sa famille? C'est impossible.
Manque de temps, culture médicale aussi. De fait, les étudiants ne sont pas sensibilisés à la gestion de leurs émotions.
Les soignants ne parlent pas de leurs ressentis et restent isolés. Donc, les institutions n'ont pas pu prendre en charge le problème si les soignants eux-mêmes ne brisent pas le tabou. On nous apprend à soigner, à sauver, mais on nous apprend pas l'échec, en fait. J'ai jamais eu de formation sur la mort au cours de mon cursus.
Thibaut Damy milite donc pour des formations en amont, mais des temps d'échange aussi, des débriefings systématiques dans les services et une prise en charge psychologique pour ceux qui en ont besoin.
Véronique Julia, il avait créé un havre de paix pour les jeunes homosexuels rejetés par leur famille. C'est comme ça que Nicolas Noguier présentait son association, Le Refuge. Mais le voilà mis en examen pour viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel et travail dissimulé. Après des témoignages accablants, un an d'enquête et une garde à vue qui s'est achevée hier soir à Montpellier, Cécilia Arbona.
Pendant 18 ans, Nicolas Noguier s'est présenté comme le protecteur d'une jeunesse rejetée. Son premier hébergement d'urgence, il l'ouvre à Montpellier en 2003. Il recueille des adolescents et de jeunes adultes chassés du domicile familial, victimes d'homophobie et de transphobie. Reconnue d'utilité publique, son association devient une fondation qui, à travers toute la France, offre un toit à près de 2500 jeunes. Un accompagnement qui pose question. Il y a 2 ans, des salariés et des bénévoles claquent la porte. Ils dénoncent des humiliations, des brimades, des gestes inappropriés. Une enquête de Mediapart alerte sur de sérieux dysfonctionnements, ce que confirme l'audit d'un cabinet privé qui pointe un management toxique et des faits graves. En février 2021, le président du refuge est poussé à la démission, tout comme son compagnon qui occupe le poste de directeur général. Les signalements se multiplient pour abus de faiblesse, délaissement et corruption de mineurs, attouchement, agression sexuelle. Un ancien pensionnaire affirme même avoir été violé dans sa chambre. Près d'une vingtaine de plaintes ont été déposées.
Cécilia Arbona, la baraka des handballeurs français. Rien ne leur résiste pour l'instant. Hongrie, premier match du tour principal de l'Euro gagné hier soir, 34 à 24 face aux Pays-Bas. Pour lui, c'est la renaissance. Gaël Monfils, qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie, il a sèchement battu le Chilien Garin en 3-7 cette nuit. Il affrontera dimanche le Serbe Kesman pour une place en quart de finale. Xi Jinping a dit « Faites du ski » et la Chine s'est mise au sport d'hiver dans la perspective des Jeux de Pékin. Cérémonie d'ouverture dans 15 jours. Mais l'industrie de la neige et de la glace s'est déjà bien lancée dans la province du Hebei. Car c'est un immense marché qui s'ouvre aux Chinois. Reportage sur place, signé Sébastien Berriot.
Dans la grande banlieue de Zhangjiakou, à une centaine de kilomètres des sites olympiques, une zone industrielle toute neuve est en train de voir le jour. Sur place, il y a déjà une quarantaine d'entreprises et tout le monde ici mise sur l'effet Jeux Olympiques. Bai Jianhai est l'un des responsables de la zone industrielle.
Cet atelier produit des patins à glace et d'autres équipements pour le hockey sur glace. C'est une société taïwanaise qui a investi ici et derrière, là-bas, c'est la société française MND qui s'est installée pour produire des systèmes d'enneigement et des câbles utilisés dans les stations.
La Chine fabrique depuis longtemps du matériel pour le ski et les sports de glace, mais avec les Jeux Olympiques, ces entreprises attendent désormais une ouverture du marché intérieur chinois. La société Hongwei de Zhangting produit du matériel pour le hockey sur glace.
Notre atelier de Zhangjiakou vient de démarrer la production. Jusqu'ici, notre entreprise basée à Canton travaillait surtout à l'exportation. Mais là, nous visons désormais le marché chinois du ski, qui se développe beaucoup. La quantité des produits destinés au marché chinois va être de plus en plus importante.
Des skis et des patins à glace en Chine, il va falloir en produire beaucoup. L'objectif fixé par le président Xi Jinping est d'atteindre les 300 millions de pratiquants en Chine. Dans la province du Hebei, Sébastien Berriot, France Inter.
Et des montagnes chinoises aux Alpes, il n'y a pas photo. On vient du monde entier pour skier en Europe et pour trembler en haut de la Streif, la célèbre piste de Kitzbühel en Autriche. Elle donne des cauchemars aux participants de la Coupe du Monde de ski qui n'ont pas dû beaucoup dormir cette nuit. La descente, c'est pour ce matin à partir d'11h30. Guillaume Batin.
Habituellement, ce sont 50 000 personnes qui accueillent les descendeurs dans l'aire d'arrivée. Cette année, ils seront 1 000 000 assis dans les tribunes. Et c'est la 15e fois que le Français Joan Claret prendra le départ sous leurs yeux.
Ça fera 50 fois moins de personnes que d'habitude, mais il va falloir se contenter de ça. Un petit kicksbull au niveau de l'ambiance, mais ça reste toujours un grand kicksbull au niveau des émotions sur la piste. Je peux vous garantir qu'il y a du public ou pas, c'est la même bagarre. On dit que c'est la Mecque du ski, mais c'est vraiment la piste de référence. Vert glacé, hyper engagé, avec des passages mythiques. Il y a la peur au ventre toute la semaine pour tous les coureurs, ça je peux vous le garantir.
De la peur pour Joan Claret, de l'angoisse même pour l'autre Français, Nils Allègre, lui aussi au départ de la descente de Kitzbühel.
C'est sûr qu'on a de la pression, de la tension, de la peur, de l'angoisse même, parce que sur certains secteurs, si ça se passe mal, le premier entraînement, je suis tombé sur le secteur du haut sans blessure, mais bon, le soir, ça nous hante un peu, quoi. Ouais, on y pense toujours. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on fait la course, on a déjà fait 3 entraînements avant sur la piste. Donc nerveusement, à la fin de la semaine, c'est hyper dur. C'est pas un one shot où on se dit, allez, donne tout ce coup-ci, puis après c'est réglé. Ce soir, je suis tranquille, je rentre chez moi. Là, cette semaine, on a 2 courses, 2 entraînements, donc va falloir se la farcir 4 fois. Peut-être pas mettre tout dès le début pour en garder un peu vers la fin, ouais.
Et le compteur peut aussi monter très haut, 140 km/h en vitesse de pointe.
Et voilà ce que, pour vous donner une idée, ce que disait Jean-Claude Killy lui-même après sa première descente à Kitzbühel, à l'entraînement, dans le premier virage, je me suis arrêté, gelé, pétrifié. C'était plus que de la peur, un effroi total. Je me suis dit, ce métier n'est pas fait pour moi.
Incroyable. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, pas beaucoup de changements.
Non, Nicolas, avec ces conditions anticycloniques, c'est un peu Anne, ma sœur Anne, hein, ne vois-tu rien venir? Pas pour l'instant, Nicolas, on a encore des résidus de la perturbation qui s'accroche sur les Pyrénées au Massif central au Grand Est, mais il n'y a pas de neige ni de pluie. En revanche, le vent entraîne un ressenti froid et vif. Le ciel est bien nuageux avec quand même quelques éclaircies dans le Nord-Ouest, alors que les nuages dominent de l'Auvergne au bassin parisien aux frontières du Nord-Est et puis de la Méditerranée aux Alpes. Le vent dégage le ciel et les gelées sont plus nombreuses qu'hier, comme dans le Sud-Ouest. Il fait moins 2 à Mont-de-Marsan, dans le Var, c'est contrasté. Moins 6 à Prades-le-Lez alors qu'on relève 8 sur l'île du Levant. Il fait moins 3 en Lozère, moins à Marseille ou au Mans. 0 à Rouen, Nevers et Lille, 3 à Paris et Ajaccio.
Et un petit peu plus d'éclaircies cet après-midi.
Oui, surtout du nord à l'Île-de-France, au centre Val-de-Loire, à la façade atlantique. En revanche, dans le nord-est, on aura encore quelques flocons sur la Lorraine et l'Alsace, mais on peut quand même espérer une petite trouée laissant passer un rayon de soleil avec des grisailles résistantes encore du Val-de-Saône au Lyonnais et puis du vent toujours en Méditerranée sous le soleil. Cet après-midi, il fera 2 au Puy-en-Velay, 4 à Nancy à Lyon, 5 à Bourges, 7 à Arras et à Paris ou à Bordeaux, 8 à Carnac, 10 à Marseille, 14 à Antibes et à Calvi.
Merci Marie-Pierre. France Inter, il est 8h18.